Bonjour Daniel, c'est Pedro de Lyon. On s'est vu le 11 septembre à Paris. Je voulais juste appeler pour te souhaiter à toi et à toute l'équipe de l'Orgie et à tous les auditeurs de l'émission une très bonne année 2004 en espérant que nous serons un peu moins bêtes cette année, que nous pourrons réfléchir un peu plus et faire attention à nos choix de vie, à nos choix pour les prochaines élections et surtout à aimer les gens, à aimer les autres, à ouvrir nos bras pour le recevoir, ouvrir nos yeux pour le voir, ouvrir nos oreilles pour les écouter. Bonne année, vraiment une très bonne année à vous tous. Allez, à bientôt, ciao.
Bonjour Daniel, je m'appelle Valérie, je vis dans le Val d'Oise et je travaille pour une entreprise américaine de transport express. Je viens te souhaiter une bonne année 2004 ainsi qu'à toute l'équipe de là-bas si j'y suis. Je vous remercie pour cette fabuleuse chanson sur Sarkozy écrite par les interlutants. Elle est géniale. Je vous félicite également pour vos émissions engagées et indépendantes qui font la part belle à ceux qui luttent et qui ne se résignent pas, que ce soit en France ou ailleurs. Pour moi, c'est la mission d'un vrai journaliste. Encore une fois, bonne année et restez audacieux.
Bonjour. Votre émission d'hier, 31 décembre, j'ai beaucoup apprécié, mais comme toujours, Mermet, bourgeois démagogue. Mais enfin, la deuxième partie était très bien. L'hommage à ces jeunes lycéens de l'époque, de leur courage et de leurs idéaux, vraiment comparé à ces épaves d'ados que l'on voit sortir des lycées maintenant, il n'y a vraiment pas photo. Dommage. Faites donc un autre reportage sur ces ados. Ciao.
Bonne année, Daniel, je souhaiterais, avant de mourir, connaître la reconnaissance de la déportation des homosexuels français, Moselle, Haut-Rhin, Bas-Rhin. Voilà. Et là, je vais avoir 80 ans, je suis né le 16 août 1923. Je suis fatigué. Le 6, je rentre à l'hôpital pour une ultime ou pour une opération chirurgicale suite aux blessures et aux tortures que j'ai eues à Schirmeck en 1941 quand j'avais 17 ans. Maintenant, j'ai 80 ans et je n'ai toujours pas la reconnaissance de la déportation des homosexuels français. Moselle, Haut-Rhin, Bas-Rhin. Bonne année, Daniel Mermet. Bonne année et bon courage. Continuez, s'il vous plaît. Gardez la sérénité, gardez, je vous ai connu quand vous êtes venu à Toulouse avec des cannes anglaises. Je vous ai connu et j'aimerais encore vous connaître longtemps. Bon courage, Daniel Mervet, à vous et à tous vos amis. Bon courage et bonne chance. Continuez, s'il vous plaît. Continuez. Continuez. Beaucoup ont jeté l'éponge. Je suis fatigué maintenant.
Salut Daniel. Soirée dans un commissariat de la République pour avoir touché une affiche. Ils arrêtèrent une dangereuse criminelle, probablement la femme de Ben Laden, à savoir moi, ma modeste personne. Donc, très intéressant. Dommage que j'avais pas de magnétophone. Donc ils avaient mis en garde à vue des tas de pauvres Pékin et dedans il y avait des, alors naturellement il était pas loin de minuit, hein, tu sais bien, on te laisse, hein, bon, et ils les avaient mis en garde à vue dans une cellule trop petite, donc les gars pouvaient ni s'asseoir ni dormir, donc ils étaient là, tous les mecs de la pupe en uniforme devant le carreau, se recrutent à la colonisation devant des cages en train de se marrer. Et de dire, moi je parie 10 euros sur le Sénégalais, moi je parie 10 euros sur les Pavels, et enfin des Roumains, des Polonais, etc., qui avaient un petit coup dans la huchette, parce qu'ils vont faire la loi, il n'y en a qu'un seul qui va pouvoir dormir. Et alors ils n'arrêtaient pas de dire au Sénégalais, mon pauvre gars, il n'y a pas d'armes, mon pauvre gars, il n'y a même pas d'armes, pourquoi tu montes dedans ? Daniel, est-ce que... Alors je leur ai dit, c'est ignoble, c'est honteux ce que vous faites là. Bon, ils n'ont pas pu me dire injure, mais j'aurais dit c'est honteux ce qui se passe dans les commissariats de la République. Alors, ils misaient, alors ils disaient, moi je mise sur le roumain, moi je mise sur le polonais, le kiki va réussir à pouvoir s'allonger et à dormir, vu que la cellule de garde à vue était minuscule. Et il disait, malheureusement, il n'y a pas d'arbre, c'est mon pauvre gars, il disait au Sénégalais, tu pourras même pas monter dans un arbre. Voilà, Daniel, je tiens à ce que Sarkozy sache ce qui se passe dans les commissariats de la République. C'est quand même dégueulasse.
Ouais, alors je voulais souhaiter une bonne année aux RMistes qui bientôt vont tomber au RMA. Je voulais souhaiter une bonne année et puis une joyeuse année aux chômeurs qui sont virés à coups de latte dans le train des acédiques. Bon, je voulais souhaiter une bonne année aussi aux intermittents où leur nouveau statut là, bon, bah, est en place maintenant. Bon, je voulais souhaiter une bonne année, une très bonne année à tous les salariés bon, qui cotisent de plus en plus pour de moins en moins de protection sociale. Puis je voulais souhaiter une bonne année aussi aux riches, qui vont profiter de la baisse d'impôts sur le revenu. Voilà. Alors, je souhaite une bonne année, enfin, à tout le monde, parce que la liste, je l'ai écourtée, parce que bon, sinon, il y en avait un peu de trop. Bon, alors, c'était Nana, de Vendée. Allez, salut.
Eh ben merci Nana, eh ben merci Flora, eh bien merci Valérie, et Pedro et Pierre Sel. À qui je souhaite beaucoup de courage encore, et puis à tous, merci de vos vœux. On a reçu beaucoup de messages pour ce début d'année, et aujourd'hui on va faire un tour dans le reste du monde. Vous savez, les journaux qui finissent, et maintenant en bref le reste du monde, et bien c'est par là qu'on va. Le reste du monde, c'est l'Éthiopie aujourd'hui, c'est un petit coin paumé dont on entend parler de temps en temps, l'Éthiopie. Et puis en Éthiopie, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le café, on va aller aussi loin pour prendre le café, tout simplement. Le café, pendant la guerre, c'était la guerre entre l'Éthiopie et l'Érythrée, c'était en 2000, voilà, donc il y a 3 ans, et on est dans une petite ville, pas très loin d'Addis Abeba, et on va tout simplement, dans ce reste du monde, prendre le café. Ça nous prépare un autre petit bout de reste du monde où nous partirons, non pas lundi, mais la semaine suivante, en Inde. Voilà encore un petit endroit où on ira. Mais là, tout de suite, l'Éthiopie, le café entre la guerre et la famine. Voilà, là, t'es sûr que la cafetière est en terre?
C'est une cafetière en terre cuite.
Alors, elle l'a posée sur le petit fourneau. Alors, il y a cette odeur délicieuse de café qui est grillé maintenant, qui est torréfié. Les petits grains de café sont tout noirs et luisants, c'est magnifique, hein.
Et là, en attendant que le café revienne pilé, eh bien, elle a mis déjà l'eau dans la cafetière, et donc, voilà, ça commence.
Alors elle est en train de piler.
Voilà.
Là-bas, je suis lui.
Salut, c'est Daniel Mermet avec Guy Vantil. Là-bas, si j'y suis, en Éthiopie, quelque part.
Flight number 2, arriving from New York.
Là-bas, si j'y suis.
Si j'y suis.
Là-bas, si j'y suis.
War and Peace in the Horn of Africa and Ray Suarez.
It's been 2 years of on-again, off-again war and a few weeks of ferocious battle
The opening of peace talks between Ethiopia and Eritrea was overshadowed by attacks at an Eritrean airport yesterday. Ethiopian jets bombed a military airstrip near the Eritrean capital of Asmara. Ambulances raced to the scene of the daylight attack, the first on the capital since the conflict.
Entre une guerre qui ne nous intéresse guère et une famine qui ne nous intéresse plus, en Éthiopie, quelque part. Afrique, détresse, barbarie, corruption, pandémie, conservatoire des maux de l'humanité, et tout spécialement l'Éthiopie, dont nous ignorons à peu près tout. Parfois, une traînée d'enchantement, des splendeurs abyssines, des bigoteries littéraires, si l'on prononce le nom de Rimbaud, mais c'est l'apitoiement qui domine. Un apitoiement impuissant et navré ou cynique, un autre monde qui n'a guère de lien avec le nôtre, ce que les médias appellent le reste du monde. Et maintenant, en bref, le reste du monde. Le reste du monde est une image dans Géo, dans la salle d'attente du dentiste. Une image, c'est tout, en couleur quand c'est gentil, en noir et blanc quand c'est méchant. Le reste du monde n'est plus le vaste monde dont la substance aimantait le pèlerin, le marchand, le navigateur, le poète, la courtisane ou le soldat. Ses cartes et ses estampes dont l'enfant déchiffrait les prénoms sous la lampe. Le reste du monde nous devient aussi indéchiffrable que celui des chômeurs, des banlieues sensibles ou des exclus. Le reste du monde, c'est le monde exclu. Après la fracture sociale, il faut parler de la fracture mondiale. L'Éthiopie ne nous regarde pas. Et on peut dire la même chose d'autres parties importantes du monde. En vérité, la mondialisation rétrécit le monde. Ce n'est pas la planète qui rétrécit, mais notre monde à nous, enfants de la World Company. Alors que nous nous déplaçons davantage, alors que nous communiquons davantage, le monde nous échappe davantage. La virtualisation ne nécessite plus un rapport physique avec le monde. C'est une évidence aujourd'hui. Le monde, c'est pas tout le monde. La mondialisation, c'est le contraire du monde. Le reste du monde poursuit son dialogue avec les dieux qu'il s'est inventés, avec les institutions qu'il a imaginées, avec ses pieds nus, sa façon d'être ensemble, de souffrir, de s'envoyer en l'air, de faire la guerre et d'inventer des traditions, d'allumer la télé et de mourir et d'aller chercher de l'eau au puits à 2 heures de marche dans une jarre de terre noire et de psalmodier la généalogie des ignames et des cargos. Le reste du monde vit sans nous dans sa longue et lente respiration, tout comme notre monde à nous, que nous ignorons autant que nous ignorons le reste du monde. Les 60 millions d'habitants de l'Éthiopie parlent 280 langues différentes. Certaines ne sont pas encore classées par les linguistes. Et quand notre ami Welde, qu'on va retrouver aujourd'hui, qui est chercheur et éthiopien, quand il est de passage en France, il arrive qu'on lui demande « Est-ce que vous parlez africain ?» Mais alors même que je suis dans cet avion en train d'écrire cette phrase « Parlez-vous africain ?» Eh bien, le pilote annonce que nous survolons Genève. Et ma voisine de siège, une aimable étudiante d'Addis Abeba, me demande « Where is Genève ?» Voilà. Sommes-nous, bien sûr, d'appartenir encore à la même communauté humaine. Après tout, il y a bien peu de temps, à peine quelques siècles, il a fallu pour cela que les Portugais partent en voyage pour que nous découvrions que nous appartenions au même espace, au même temps, à la même entité, aux mêmes cieux. L'universel serait-il déjà devenu une vieille lune ou seulement un croissant ? Nos pas, aujourd'hui, vont nous mener vers le quotidien, vers le proche, vers le prochain. On va commencer par les hauts plateaux de Shoah, entre l'eucalyptus et l'encens mêlé au parfum de café qu'on brûle. Tout ça, pourquoi ? Pour tâcher à travers des gestes lents et familiers, d'approcher, de sentir, de rejoindre, de relier à tâtons ce reste du monde pour mesurer de quoi notre aveuglement nous prive. On va chez Ilma et Amré à Debre Beran pour le café, donc, en Éthiopie, quelque part.
Éthiopie. Éthiopie.
Pas à l'Afrique. C'est le premier sentiment qu'on a quand on arrive à Addis Abeba. Bien sûr, c'est un sentiment de Français pour qui l'Afrique d'abord n'existe pas ou peu. C'est 750 millions d'habitants de ce continent habitent dans une parenthèse par rapport à la mondialisation. Mais dans cette parenthèse, il y a une autre parenthèse qui est encore l'Éthiopie. L'Éthiopie ne ressemble pas à l'Afrique, à notre Afrique à nous, c'est-à-dire l'Afrique de l'Ouest, que nous connaissons, que nous sentons quand même un petit peu. Et la différence fondamentale, c'est le sentiment qu'on éprouve en arrivant. Nous n'avons pas ce sentiment, soit pour les uns de culpabilité, en tant que blanc, soit pour les autres de supériorité, en tant que blanc. Ici, point de fardeau de l'homme blanc. L'Éthiopie est un pays à part entière, est un état-nation à part entière. L'Éthiopie n'a jamais été colonisée. C'est le seul pays de ce continent africain qui n'a jamais été colonisé. Et c'est la première chose que vous sentez. On vous le fait pas sentir, mais on manquera pas à l'occasion. Très chatouilleux sur leur souveraineté. On peut même parler de nationalisme, surtout avec cette guerre entre l'Érythrée et l'Éthiopie. Mais il y a cette histoire dont les Éthiopiens sont très fiers, pas seulement de n'avoir jamais été colonisés, ou si peu, par les Italiens. Mais il y a cette histoire que vous percevez tout de suite, vous comprenez en arrivant là que vous êtes dans des hautes eaux mythologiques. Le christianisme, cette écriture éthiopienne, le seul pays du sub-sahélien qui connaisse l'écriture, une écriture ancienne qui a d'ailleurs été dessinée par un Arménien. Et puis c'est une Afrique qui est tournée plus donc sur la mer Rouge, et c'est d'ailleurs l'un des enjeux de la guerre avec l'Érythrée. C'est une histoire de façade maritime. L'Éthiopie est tournée à la fois vers la péninsule arabique, l'influence est importante, vers l'Inde qui passe par ici, vers la Méditerranée, vers la Terre Sainte, vers Alexandrie, on pense à la Grèce aussi. Donc on est dans une autre Afrique que celle que nous percevons et qui devrait nous être plus familière que ce qu'elle est, celle de la France-Afrique, celle de notre précaré. On va laisser tout de suite Addis Abeba de côté, on va même laisser cette guerre dans le lointain, et là on est monté avec nos amis Weldé et Ambaye, notre amie Anne aussi, qui est une chercheuse qu'on va retrouver au cours de ce voyage. On est tout simplement dans une petite ville des hauts plateaux du Shoah, en pays Amara, une ville qui s'appelle Debre Beran, une ville très ancienne. On ira faire un tour à l'église qui est très ancienne, très intéressant, évidemment passionnant, le culte éthiopien, de l'église chrétienne éthiopienne. Mais là on rentre chez Yilma et Amré qui nous attendent pour le café. La nuit est tombée, il fait froid, on est sur les hauts plateaux. Et on s'assoit, on se dit pas bonjour. La cérémonie du café a commencé et elle continue. Elle est très lente, très longue. On a voulu cette lenteur pour faire connaissance, se sentir, se ressentir et se rapprocher du reste du monde. C'est curieux parce que chez nous, au fond, il n'y a pas de rituel du café, mais enfin, quand même, c'est le moment de la pause, café, du repos, du petit moment où on se détend, où on cause un tout petit peu, ça se fait très vite, très mal, mais de façon lointaine, ça ressemble un petit peu. Voilà, ça y est, le café est pilé. Elle remet de l'eau dans la cafetière qui est sur le fourneau. Voilà, là on met avec une toute petite cuillère, on met la poudre de café, le café moulu dans la cafetière en terre, en haut, dans le goulot en haut, et puis on remue le tout, et puis on verse, et puis on reverse. Voilà la première tasse. On la reverse par le goulot du haut. Il y a un aller-retour de café qui m'échappe un peu.
C'était pour mélanger la poudre à l'eau. Donc tu verses et tu reverses par-dessus. Tu verses et ça permet de mélanger un peu plus la poudre à l'eau dans la cafetière.
Alors là, c'est vraiment... On voit bien qu'il y a une volonté de plaisir du nez aussi, hein, des parfums. Parce qu'après le parfum du café fraîchement torréfié, maintenant c'est l'encens. Puis alors c'est d'une finesse extraordinaire, c'est pas un encens de... C'est très très fin, hein. C'est vraiment un bonheur là, c'est un plaisir.
On ne peut séparer l'encens du café, ça fait partie d'une cérémonie de café, on met toujours un peu d'encens. Toujours, toujours, toujours.
que ça peut venir cet encens? Oh, il faudrait aller trouver ça du côté de l'Arabie, de la reine de Saba, du Yémen et des transports comme ça, d'encens et de myrrhe qui se faisaient à travers le Yémen. Il devait y avoir une histoire comme ça. En tout cas, c'était un produit très très précieux, quoi. C'est génial, hein? Et à chaque fois qu'on prend le café, on fait tout ça.
On fait tout ça. Et c'est souvent les maîtresses de maison qui sont très attachées à faire le café, c'est important pour elles.
C'est la femme qui fait le café, c'est l'affaire des femmes.
C'est toujours l'affaire des femmes.
Oui, c'est son rôle à elle, c'est sa maison, quoi, c'est ça.
C'est elle qui décide et...
Qui décide à qui elle va offrir la première tasse, c'est ça.
S'il y a des invités, bon, la première tasse revient aux invités, à celui qu'on...
qu'on veut honorer le plus.
Voilà. Sinon, c'est pour le maître de maison, le premier.
Bien sûr. Et le maître de maison, il est particulièrement royal, là. Hein, ce monsieur qui est avec sa toge blanche, que vous appelez Gabi. Hein,
Gabi, exactement, qui est très utile dans ces coins. Il fait froid comme ça le soir, hein, c'est vraiment...
Mais c'est un bonheur de parfum, là, d'odeur.
Et puis c'est agréable, parce que c'est souvent des moments, effectivement, très calmes, où t'es avec des gens que t'aimes bien. C'est très, très agréable. Et puis en plus, ce qui ne gâche pas le tout, c'est que le café est très bon après.
Alors on attend. Voilà, ce qu'il faut toujours faire d'abord, ce qu'il faudrait toujours faire d'abord, c'est mettre sa pendule à l'heure. À l'heure du pays où on arrive, se mettre dans le rythme. Et ce serait toujours, presque toujours sur cette planète, pas toujours, mais dans des pays comme celui-là, ce sera un ralentissement. Ce sera un ralentissement, et ce sera un autre temps, une autre durée, d'autres gestes, et donc d'autres relations et d'autres réflexions. Il faudrait vraiment toujours commencer comme ça, par cette cérémonie du café, qui peut-être a cette fonction. Ce qui est curieux, c'est que ça s'appelle Buna, le café, en amharique, la langue nationale, et, alors que le café d'Éthiopie vient d'une région du sud-ouest de l'Éthiopie qui s'appelle Kaffa et qui a donné son nom au café. Dans le monde entier, on dit café, des tas de déclinaisons, mais à partir de ce mot d'origine, et mystérieusement, enfin pour des raisons que j'ignore moi, on dit Buna. On est donc, il fait nuit dans cette pièce peu éclairée en rond autour du café, autour de cette famille qui nous accueille, mais tout est assez solennel, jusqu'à l'alcool. N'oublions pas que les chrétiens, Noé oblige, ont cette différence fondamentale avec l'islam de vénérer l'alcool.
Est-ce que vous voulez goûter à l'araké?
C'est quoi l'araké?
C'est ce qui permet de se réchauffer le soir. C'est cet alcool d'orge.
Ah bon, on est obligé. C'est notre métier de journaliste. Nous, il faut qu'on connaisse tout. On découvre tout pour faire tout découvrir. Oh, qu'est-ce qu'on apporte là?
Alors, à chaque fois qu'il y a le café, il y a ce qu'on appelle le déjeuner du café, le bulna kurs. Et qui, en fait, il y a toujours un petit truc à manger qui est offert avec le café. C'est des petits amuse-gueules, ça peut être des petites graines grillées comme tout à l'heure, ou ça peut être alors un peu...
C'est du blé, c'était délicieux, ces petites graines de blé grillées.
C'est toujours quelque chose de très léger, hein. C'est histoire d'offrir quelque chose à manger avec.
Et ça, c'est quoi?
Donc, c'est de l'indira avec du piment.
L'indira, c'est la crêpe. C'est là-dedans que tout se fait, quoi. C'est à la fois le pain, la crêpe et le fond du plat, quoi.
Avec du piment.
C'est les tasses, elle a remis un peu d'encens.
Toujours, elle va en remettre au fur et à mesure, à chaque début de le premier café, le deuxième, le troisième, on va rincer les tasses à chaque fois.
Mais alors l'alcool vient au bon moment.
Comment tu appelles ton alcool?
Araké.
Araké?
Ah,
araké. une goutte. Hein.
Juste une petite goutte parce que je conduis mon micro. C'est pas mal, hein?
Ici, il n'y a pas de bouilleur de cru. Beaucoup de maisons font eux-mêmes leur propre alcool. Et en fait, ils ont un alambic très artisanal avec un tuyau souvent en plastique pour qu'il y ait la distillation. Et voilà, qu'est-ce que je t'avais dit, la première tasse?
Ah, j'étais sûr que c'était pour le VIP. Merci beaucoup. Chacun reçoit sa petite tasse.
Si c'est la maîtresse de maison qui fait le café, elle ne se lève pas pour donner les tasses, elle désigne pour un tel, elle la lève et il y a toujours un enfant de la maison qui fait la distribution.
Là, c'est un baillet qui fait l'enfant de la maison.
C'est l'enfant de la maison.
C'est vraiment le meilleur café du monde. Hein. Parce qu'on l'a vu faire, on l'a vu venir, on l'a attendu. C'est ça un rituel. Explique-nous, Mbaye.
Three times per day.
Trois fois par jour.
They make coffee.
On fait le café.
Morning time.
Le matin.
During the lunch.
Pendant le déjeuner.
And at the end of the day.
Et à la fin de la journée.
Between 7 and 8. Between,
entre 7 et 8 heures, généralement.
Yes. In Ethiopia, between, yes, it's between 7 and 8.
Ah oui, so, entre 7 et 8 heures, parce que il y avait une mésentente sur le calendrier, sur l'horaire.
Ouais, mais alors ça, moi, je comprends rien à vos horaires. La journée commence à 6 heures du matin, qui correspond pour nous à 6 heures du matin, c'est zéro. Et donc, 7 heures du matin, c'est 1 heure, 8 heures, c'est 2 heures, 9 heures, c'est 3 heures, 10 heures, c'est 4 heures, 11 heures, c'est 5 heures, etc., c'est 6 heures de moins. Et midi, c'est 6 heures. Quand il est midi.
Et à 12 heures, c'est-à-dire pour nous 6 heures de l'après-midi,
ça devient zéro.
La journée est coupée en 2 fois 12 heures.
Voilà, voilà. Ah, ça, c'est une première grande différence entre le temps occidental et le temps éthiopien dans la division de la journée. Et puis après, il y a un calendrier, puisque vous êtes en 1992. Vous avez des mois de 30 jours. Donc, vous êtes en 1992, et pour vous, l'an 2000 n'a pas eu beaucoup de signification. Qu'est-ce que vous avez fait le jour du passage à l'an 2000?
For the 2000, it will be after 8 years.
Bah, l'an 2000, en Éthiopie, c'est dans 8 ans.
Hein?
Now it is the second,
là, elle est en train de préparer le deuxième
voilà,
café.
Voilà, ta maman est en train de préparer le deuxième café. Alors là, la maman distribue différemment. C'est d'abord le maître de maison. Après le fils, c'est moins cérémonial là. Alors voilà, il est exactement 11h37 et 31 secondes. J'ai bien dit 11h. Ça, voilà l'heure éthiopienne. Et à 18h chez nous, eh bien, il sera 0h. En Éthiopie, il sera 0h de la nuit, puisque dans ce pays, vaste pays, 2,5 fois la France, je crois, hein, l'Éthiopie, le jour apparaît à peu près tous les jours de l'année à la même heure, au même moment, hein, et puis la nuit tombe au même moment. Donc voilà ce choix de diviser le temps, comme ça. Et puis, effectivement, on est en 1992, si bien qu'on vous dira, venez en Éthiopie, vous allez rajeunir de 7 ans. Et puis il y a un 13e mois, puisqu'il y a 12 mois, et puis ce petit mois qui continue. Autre façon de mesurer le temps, mais aussi autre sens de la durée. Et puis, qui d'ailleurs peut s'exprimer à travers le goût pour les odeurs, là, dans cette cérémonie du café. Il y a le parfum du café torréfié, il y a le parfum de l'encens, et puis alors très souvent dans les maisons, ou des maisons avec des murs d'argile, plaqués sur des structures de branches ou de bois, sur le sol en terre battue, on dispose le matin, des herbes fraîches comme ça qui donnent un parfum. Alors nous on est un peu troublés, ça fait un peu paille, des tables, voilà. Et c'est pas ça du tout, c'est un charme, c'est un plaisir, et je pense que c'est lié aussi avec ce goût des parfums. On entre dans ce pays donc par ces rituels, par cette lenteur dans cette maison. Alors voilà, c'est fini, on rembarque les tasses. Voilà. Ah oui. Ça c'est la cuisine.
L'organisation.
Ah, ça sent un peu la grange de mon enfance. Il y a une lampe au plafond qui éclaire un peu jaune, comme ça, on dirait vraiment dans une... Oh, c'est magnifique, une peinture hollandaise du 17e. Alors là, qu'est-ce que je vois d'abord? Attention, je mets les pieds. Ça, c'est le foyer. Hein.
Ça, c'est le foyer, c'est le fourneau. T'as différents feux pour faire différentes choses. Là-bas, c'est pour faire l'injera, la galette. Là.
Ah, oui.
Tu vois? Donc avec le couvercle, etc. Et donc, elle a dit ses différents feux. Elle a ses étagères, c'est très
bien. Oui, c'est très ergonomique. Hein. Là, le bois arrive par là. Là. C'est complètement en terre, je vois un peu plus clair maintenant.
Tout est en terre, même les...
Les rebords des foyers.
Les foyers, le foyer
lui-même. Le foyer lui-même, oui. Tout est en terre. Et qu'est-ce qui est suspendu sur le fil? Là, c'est des viandes, des abats, des tripes.
Souvent, quand on tue un animal, la viande, tu peux pas la manger. On peut pas la manger d'un seul coup. Donc, on
fait sécher.
Des petits filets, on la fait sécher. Elle se conserve vachement longtemps. Et on peut refaire de la sauce avec.
Ouais.
T'as vu ça, Bruno? Il y a des étagères qui sont faites comme ça, à même le mur.
Mais
en
oui,
terre.
Oui.
Tout est conçu.
Toute l'architecture. En fait, l'architecture est en bois, c'est en pisé, quoi, avec une terre qui est mêlée de paille qu'on
de
projette.
Paille, voilà, et on recouvre le tout de purin.
De purin?
Ça lisse le tout.
Oui, c'est ça, tout est très précis, très frugal.
Et à part la bassine bleue, tous les ustensiles sont faits en plâtrerie, en poterie, en bois, en terre.
Là, il y a juste l'arrivée du plastique avec ce seau bleu.
Là, il y a les piments qui sont en train de sécher.
Seau bleu. Qu'est-ce que tu fais voir?
Bah, il y a une sorte.
Ah, ça, c'est tous les outils, tous les couteaux dont elle se sert. Fais voir, montre.
C'est dans un panier, en fait, c'est le tiroir de la cuisinière.
Oui, c'est le tiroir de la table de la cuisine.
Oula.
Ça, c'est tous les couteaux, les ustensiles. Prends ça, les serpes.
Ouais, avec les six manches qui
pour couper la viande ou couper les herbes.
Ça, c'est
le trésor. Hein.
Et là, c'est l'arc pour filer le coton.
Ah, oui, d'accord. Elle file encore le coton, tu crois?
Ah oui. T'es tout, souvent, quand tu fais un gabi. Tu achètes.
Le gabi, c'est-à-dire c'est.
Cette toge blanche que.
Voilà, que tout le monde porte.
Souvent, la maîtresse de maison achète le coton à l'état brut. Donc il faut le filer, il faut le nettoyer, il faut le filer sur des bobines et après tu donnes ton fil au tisserand. Il y a beaucoup de choses ici que tu fais toi-même dans la maison. Tu achètes très peu de produits finis. Donc tu achètes le coton à l'état brut. Et souvent, c'est un plaisir. Donc quand tu offres quelque chose à quelqu'un, tu as filé.
Oui, tu as fait toi-même, évidemment, ça a une valeur.
Ah oui, c'est un endroit merveilleux.
On est très curieux, hein. Ah. Voilà comment on file la laine. Là, il y a un petit nœud. Il est en train de faire des bobines, c'est-à-dire qu'il y a l'axe de la bobine qui est constitué par un petit tube de bambou qu'elle emmanche sur un axe qu'elle fait tourner très très vite. Et elle tourne, elle va faire comme ça une petite bobine. Et c'est avec ça qu'elle pourra tisser ensuite sur un métier à tisser. Je ne sais pas à quoi il peut bien ressembler ce métier. Mais ça, c'est pareil, cette toche blanche, là, le gabi, est réservé aux chrétiens. Les musulmans ne portent pas ça. C'est la tribu, c'est le signe.
Voilà, mais tout à l'heure, on est passé dans des pays qui étaient plutôt homo, et si t'as vu, les gens ne portaient pas de toche blanche dans un premier temps, mais plutôt des choses de couleur.
Oui, oui, tout à fait. Il y avait un marché aux engrais, là, sur la route.
Les gens des couleurs vives, des trucs verts, rouges.
Oui, oui.
C'est quand tu arrives vraiment en terre chrétienne, à Mara, que les gens portent ces toches blanches.
Salam laki, Maryam dengan sakti. Salam laki, Maryam dengan sakti. Salam laki, Maryam dengan sakti. Yakin ergib, yakin walalaf terat. በሰላም ታ እስኪኖር ዛትቂት ያምላክና የሰማይ የምድር ፈጣሪ የእርሱ አዝማሪ እዝራና ዳዊት በባህ ቃል ኪዳኗ ማይፈርስባት ነዋሪ እልፍ አእላፍ መላእክት አሏት ነባሪ ያገልግሉሽ ብለው የሰጣት ፈጣሪ እኛን ይዛ ፍጥረት ዓለሙን መካሪ ወላላዊ ቤዛዊተ ዓለም ብጽዕት ከወተት ውዳሴ ስቶን በእውነት ከወለላ ታምርሽ ክሩም ሲበላ የብርሃን ዘውድ የብርሃን አክሊል ደፍተሽ ድረሽልን በሰረገላ ሆነሽ ይሸሻሉ አጋንንት አንቺ ሲያውሽ የባብ ያላ ግሩም የሆነ ዳመና ላመናት ሰው የምትደርስለት ተጭመ
On était très admiratif devant votre cuisine, hein, tout à l'heure là. On est allé voir votre cuisine, on était...
ያልተዘጋጀ ቃው እኛ እንግዳ ይመጣሉ ለአላዘጋጀ ነው
Vous attendez quoi? C'était pas rangé.
C'est la première fois qu'on prend le café en Éthiopie. C'est chez vous. Et je vous remercie.
Est-ce que c'est bien? Est-ce que tu aimes bien?
C'est merveilleux, je trouve. C'est un parfum de mon enfance. Quand j'étais enfant, on torréfiait le café comme ça.
C'est
vraiment un très très bon café.
Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Un caillou dans la chaussure tout au long de ce voyage en Éthiopie, ce caillou c'est évidemment la guerre à la frontière avec l'Érythrée, les Éthiopiens, je parlais de cette distance, de cette discrétion, pour ne pas dire de cette morgue, ne parle pas, n'évoque pas cette guerre, au moins devant l'étranger. Et c'est un pays qui n'a pas été épargné, cette Éthiopie, un des pays les plus pauvres du monde. Même s'il faut nuancer cette appréciation, puisque c'est avec nos chiffres à nous qu'on évalue cette pauvreté, mais elle est considérable, elle est souvent visible, même s'il ne faut pas confondre la pauvreté et le malheur, mais c'est un pays qui n'a pas été épargné. Un demi-siècle avec le Négus, le Rastafari, un demi-siècle d'oppression féodale, suivi de 17 années de dictature marxiste-léniniste. Le Derg avec la figure de Mengistu en 1991, les Tigréens qui étaient en guerre contre ce régime, le Derg, ont pris le pouvoir à Addis Abeba, et c'est un basculement, puisque c'est le groupe Amara, j'aime pas dire ethnie, c'est un mot que je trouve très moche, avec des significations sous-entendues terribles, disons les Amara, qui étaient au pouvoir et qui l'ont perdu en 91. Mais ils l'ont conservé, peut-on dire, parce qu'ils incarnent la culture centrale de l'Éthiopie. Et là, on est dans une famille Amara, le rituel du café est lié tout à fait à cette culture principale très très ancienne qui remonte à la reine de Saba et qui est la culture dans laquelle le christianisme est arrivé. C'est au moins les Amaras revendiquent ce christianisme qui est arrivé chez eux avant nous. Nous étions, nous autres Gaulois, encore largement païens au moment où les Éthiopiens construisaient leurs fameuses églises monolithiques. On continue donc cette première contact avec l'Éthiopie autour de tasses de café.
ከተፈተለ በኋላ ይነጣቄት ይባላል ይሄ ከዛ እንደገና በዚህ ይደወራል ይሄ ድውር ይባላል ይሄ ለሸማኔ ይሰጣል ያንን ለሚሰራ ሰውዬ ይሰጣል እሱ እንደዛ ያለ ጋቢ ሰርቶ ይሄው ኤክዚስ ምሳሌ እዚህ ላይ ነኩታ
C'est très fin.
Pour faire ce genre de gabi, c'est moi-même qui le prépare.
Ça c'est moi-même qui l'ai fait.
C'est
des robes pour les mères. C'est moi-même qui l'ai fait. C'est moi-même qui ai tout préparé.
La broderie là, c'est où?
C'est moi-même qui l'ai fait.
C'est très très beau. Ça c'est vous qui l'a porté?
Oui, c'est pour moi. C'est pour moi, je l'ai fait.
C'est un...
C'est vaporeux comme tissu.
Ah, voilà.
Par exemple, là,
elle va nous l'essayer, là, la tige.
Ah oui. Ah ben ça, c'est un honneur, alors. Voilà, alors elle passe la robe.
Tu peux l'entendre
que ça.
Oui.
Ça va avec.
Ah oui, oui, le liseré qu'elle porte le liseré et le est assorti au liseré que porte son mari. Voilà, elle met ça, voilà. Quelle majesté. Ah, là, voilà. Cette grande toge dont elle s'entoure. Et il faut...
Pour aller à l'église. C'est la culture de nos mères.
Bien sûr. Qui vous a appris tout ça?
Depuis que je suis petite, je faisais ça à la campagne. Après, je suis allée à Addis, j'ai fait des études, je suis devenue institutrice. Maintenant, je suis à la retraite et donc je continue à filer.
Vous étiez institutrice?
On était instituteurs, mon mari et moi, et maintenant on est à la retraite. On a déjà élevé nos enfants et maintenant on est à la maison et on s'occupe de nous. Voilà, maintenant je suis assis avec mon mari.
Et c'est la vie. Qu'est-ce qui a changé de plus important dans votre vie, que vous avez vu changer autour de vous?
Le plus grand changement pour moi dans ma maison, c'est que mes enfants aient grandi, ils vivent tout seuls et que je suis dans ma maison. À la retraite avec mon mari.
Mais autour de vous, dans votre pays, quel était pour vous le changement le plus grand?
J'ai vu beaucoup de changements. J'ai connu l'empereur, j'ai connu le Derg, maintenant ici.
Vous avez connu l'empereur, vous avez connu Mengistu, et maintenant.
Yes.
C'est fou, hein? Grand bouleversement.
Au
moins trois gouvernements.
Parce qu'en même temps, on a l'impression que beaucoup de choses ont changé et que rien n'a changé quand on vous voit dans cette robe avec votre gabi, votre toge. On a l'impression que c'est éternel. Le café, on a l'impression que c'est éternel. Est-ce que vous avez voyagé à travers l'Éthiopie?
Non, je la connais pas en entier.
Ici,
dans les environs.
Addis Ababa, Bahar Dar.
Addis Ababa, Bahar Dar.
Debrezin, Nazareth.
Moi, je connais pas beaucoup.
Qu'est-ce que vous pensez de la guerre en ce moment?
Moi, je suis pas allé à la guerre, hein, j'entends par la radio.
Ouais.
On verra le résultat.
Et ici dans la ville, est-ce qu'il y a des jeunes qui sont partis?
Il
y en a beaucoup.
Ah, beaucoup de jeunes qui sont partis. Et est-ce qu'il y a des familles qui ont eu des enfants tués?
Non, rien n'a été annoncé. On ne sait rien.
Non. Mais le monsieur, alors, on n'a pas parlé du tout avec vous. Il faut qu'on le dise trois mots, quand même. Hein? Alors, on a une façon de faire.
Et comment vous dites?
On parle entre nous. Hein? Et puis, on finit par le maître de la maison. Mais hein? ça se fait pas. On devrait pas.
Merci. Merci. Elle dit que c'est la mère en premier.
Ah bon? Non, ça va. Ça va. Donc, vous étiez instituteur?
Ah. D'abord, qu'on y a ça, Marie.
Oui, j'étais instituteur.
Quand on aura
Et puis après, au niveau d'Ankova, j'étais responsable des programmes. En majeur, je faisais de l'anglais, et en mineur, c'était de l'histoire.
Alors, vos livres d'histoire ont changé trois fois?
Ah,
oui.
C'est ça, trois fois. C'est ça, hein?
Oui. Exactement, trois fois.
Une fois, on disait que le mieux, c'était l'Empire. Une autre fois, on disait que le mieux, c'était le Dogue.
Le paradis socialiste.
Ben
maintenant, il n'y a plus d'histoire. Il n'y a plus d'histoire.
C'est la fin de l'histoire, c'est fini.
Il
n'y
a rien. Il n'y a plus rien.
Oui, oui. Il n'y a plus rien maintenant.
Si on parle de la vie, soit la CSTC, c'était très peu cher la vie. Le derg, ça allait encore. Ça allait. Mais maintenant. On ne sait rien, on ne sait plus, on ne comprend
plus.
On ne sait pas qui c'est, on ne sait pas où ils vont.
Ben là, vous savez ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de faire la guerre, là, ça c'est clair.
Ça, on le sait.
Qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette guerre? On annonce partout que la victoire est proche, vous y croyez?
Moi, j'ai pas l'impression. Ça, on le saura à la fin. Chacun amène sa propagande.
Oui,
parce que qui acceptera d'être vaincu? C'est quand il n'y aura plus personne pour se battre. C'est un mauvais jeu, la politique.
Non, on ne sait
pas où est la vérité.
Et vous savez, la règle de la politique, c'est de dire ne jamais dire ce que je fais, ne jamais faire ce que je dis.
Ça, on le sait, c'est clair.
C'est un beau programme.
C'est clair.
Tous ces jeunes qui meurent, tout l'argent qui part là-bas.
Et l'argent qui part aussi.
Ouais, mais tu peux pas changer la vie, les vies humaines contre de l'argent, c'est ça qui est le plus important. On n'a pas des usines pour fabriquer des gens. Hein, on peut pas les fabriquer. Nous, on les éduque, et voilà ce qui se passe après.
C'est vrai. C'est tout simple, mais c'est vrai.
Maintenant.
On va vous laisser, on vous remercie encore une fois.
Bonne route, on vous remercie aussi.
Merci de votre hospitalité. On n'a plus froid du tout maintenant, hein? Au revoir.
Happy night.
You too.
You're okay.
Bye bye. Thank you. Comment dire au revoir?
Donadoru.
Donadoru?
Donadoru, bonne nuit.
Ah ben ça va, ça donne à deux roues.
Donne à deux roues.
Rentrez en paix, c'est très beau. Voilà, c'était juste un café pendant la guerre en Éthiopie en 2000, il y a 3 ans et demi. Merci à tous. J'ai écouté ça, ce moment avec plaisir. Et à cause du silence, de la lenteur, c'était un très grand, très bon moment pour nous. Et pour vous aussi, j'espère. La technique aujourd'hui, Jean Caron, Olivier Daligo, Christophe Imbert, c'est le répondeur. Coyen Guyenne, c'est la musique. Et c'est Antoine Chao qui a réalisé cette émission modeste et géniale. Le numéro du répondeur, 01 56 40 37 37, le mail. daniel.mermet@radiofrance.com. Tout ça nous prépare à ce voyage qu'on va faire en Inde, pas lundi mais le lundi suivant, Il y a des ambiances qui se ressemblent par moments. Enfin, on ira à Bhopal, on ira à Ahmedabad dans le Gujarat, on passera aussi par Bombay, en écho, disons, avec le Forum social mondial qui se tiendra à Bombay du 16 au 21 janvier prochain. Voilà, encore merci pour tous les vœux que vous nous adressez de tous les côtés. Je vous adresse au nom de toute l'équipe de La Passe, j'y suis, nos vœux les meilleurs. Il est 18h sur France Inter et je vous laisse pour le journal avec Delphine Simon. Salut.